Alors, c'est si vrai que...
Au risque d'être, je dirais, jugé comme je ne sais quoi.
C'est une première raison.
Donc c'est tout à fait important puisque...
Non, c'est pas tellement qu'on les connaisse mal.
Regards croisés. Un débat entre académiciens et personnalités. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Mesdames, messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à Canal Académie et en particulier à notre série sur la littérature comparée présentée par Pierre Brunel. Dans la suite naturelle de l'émission précédente sur littérature comparée et voyage, dans laquelle nous avions évoqué le Japon et Claudel, qui lui-même a été diplomate et au Japon et en Chine, nous évoquerons aujourd'hui la littérature comparée et la Chine. Sujet vaste et difficile, pour lequel il faudrait convoquer les œuvres des écrivains étrangers, par exemple Pearl Buck, qui avait été prix Nobel de littérature en 1938, et aussi faire place au développement de la littérature comparée en Chine, évoqué entre autres dans le numéro spécial « Le comparatisme en Chine aujourd'hui », publié dans la revue de littérature comparée en janvier-mars 2011. Mais on s'en tiendra à une grande question et à de grands écrivains, y compris d'origine chinoise. La grande question sera les missionnaires en Chine, les informations que les jésuites ont rapportées de leur mission en Extrême-Orient, leurs lettres, les jésuites ayant eu un rôle pionnier dans le dialogue entre la civilisation occidentale et la Chine. Et les grands écrivains que nos invités évoqueront seront des immortels de l'Académie française, Claudel, vous vous en doutiez, François Cheng. Pour mémoire, on ne saurait oublier Pierre Loti et Claude Farrère, d'autres immortels en Chine, et nous évoquerons le personnage de Victor Segalen. Nous retrouvons donc Pierre Brunel et ses invités, Bertrand Saint-Cernin, de l'Académie des sciences morales et politiques, professeur de philosophie à l'Université de Paris-Sorbonne, que nos auditeurs de Canal Académie connaissent bien aussi, et Yvan Daniel, qui est professeur de littérature générale et comparée à la Faculté des Lettres, Langues, Arts et Sciences humaines de l'Université de La Rochelle. Ses recherches portent essentiellement sur les effets de la mondialisation culturelle et théorique dans la création littéraire et en particulier dans le cas des échanges littéraires entre la France et la Chine. Et notamment, Yvan Daniel est l'auteur de Paul Claudel et L'Empire du Milieu en 2003 et aussi Littérature française et culture chinoise qui ont paru en 2011. Pierre Brunel, bonjour. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu jusqu'à notre micro. Je suis très heureuse de vous accueillir tous les trois. Pierre Brunel, quelles sont les illustrations que vous avez choisies pour ce thème d'aujourd'hui ?
Alors, je voudrais dire d'abord que c'est un sujet très vaste, très difficile, sur lequel il est impossible de tout dire. C'est un sujet aussi sur lequel des spécialistes travaillent actuellement. Je pense en particulier à notre collègue de la Sorbonne Nouvelle, Yinde Chang, qui a publié un livre intitulé « Littérature comparée », spécialement consacré à la Chine. Vous avez vu plusieurs numéros de la revue de littérature comparée. Et nous étions bel et bien obligés de faire un choix pour l'émission d'aujourd'hui. Le projet a été de partir de ce qui est fondamental, c'est-à-dire les jésuites en Chine. Et grâce à M. Bertrand Saint-Cernin, nous allons pouvoir mieux connaître un trésor, en quelque sorte, que possède l'Institut de France. Ensuite, nous évoquerons peut-être quelques figures de comparatistes qui se sont intéressés à la Chine. Et puis, nous en viendrons à des écrivains. Et là aussi, nous étions obligés de faire un choix. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous évoquerons dans l'ordre chronologique Claudel, Segalen ou Segalen et François Cheng. Voilà, d'autres au passage, mais ce seront les trois écrivains principalement envisagés.
Quelles sont les illustrations musicales que vous avez apportées ?
J'ai choisi Pagode de Claude Debussy, qui m'a semblé pouvoir correspondre en littérature à telle page intitulée aussi Pagode, une dans Connaissance de l'Est de Claudel, l'autre dans Les Stèles de Victor Segalen. Et puis, j'ai choisi aussi un morceau de musique chinoise, La Cité Interdite. Et là encore, je pensais qu'il serait bon de lire en parallèle une des stèles de Victor Segalen, qui est intitulée Cité Violette Interdite.
Donc, les jésuites sont importants pour la connaissance du monde oriental, puisque finalement, comme la Renaissance au XVe et au XVIe avait été provoquée par la redécouverte des textes classiques de l'Antiquité, c'est la découverte des grands textes orientaux, rendus accessibles par les progrès de la linguistique et les travaux de l'orientalisme, et en particulier avant le XIXe siècle, les informations apportées par les jésuites qui ont ouvert le monde occidental à l'Orient. Bertrand Saint-Cernin, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y avait un fonds très important à l'Institut de France à ce sujet.
Oui, la Compagnie de Jésus a eu l'habitude de demander à ses missionnaires de faire des rapports exacts sur les pays dans lesquels ils séjournaient. Et notamment, en 1685, un groupe de jésuites français s'embarque de Brest pour la Chine et l'habitude est prise d'envoyer en Chine des pères jésuites qui sont en même temps des scientifiques. Et cela va donner lieu à un échange de correspondances très important, notamment entre l'Académie des sciences et ses pères missionnaires en Chine, et à la publication d'environ 4000 pages de lettres curieuses et édifiantes entre 1702 et 1776. En 1774, la Compagnie de Jésus est dissoute, mais les jésuites français vont rester en Chine et il y a une sorte d'accord tacite entre Louis XVI et l'empereur de Chine pour que les choses se passent à peu près calmement. Mais en gros, les lettres elles-mêmes portent sur cette période 1702-1776. Alors, quels sont les sujets abordés ? Les sujets abordés sont dans le domaine des sciences. Je laisse de côté un problème très important qui est à la fois scientifique et théologique, qui est le problème de la chronologie. Est-ce que on peut rendre compatible la chronologie biblique avec la chronologie chinoise? C'est une préoccupation qui apparaît dans de nombreuses lettres. Mais en dehors de cela, on trouve différents thèmes traités. Quelles sont les causes du retard scientifique de la Chine? Le 11 août 1730, le père Parénin écrit à Dortouze de Méran, qui a été membre de l'Académie française et membre de l'Académie des sciences, et lui expose deux causes de ce retard. Le pouvoir politique ne favorise pas l'étude des sciences et il n'y a rien qui pique l'émulation des jeunes gens qui concourent au grand concours administratif en Chine pour pratiquer les sciences. Et justement, l'empereur va attendre de l'arrivée des jésuites que cette situation se modifie. Un deuxième thème qui est traité, c'est celui de la médecine chinoise. Et on voit une réaction qui est très intéressante. Les jésuites remarquent que, du point de vue théorique, les écrits dont ils disposent et dont ils ont connaissance restent obscurs, mais qu'en revanche, la pratique et les résultats de la thérapeutique chinoise sont très bons. Et alors, ils en concluent que probablement il a dû exister autrefois une théorie médicale, mais qui a été oubliée et dont il n'est resté que, disent-ils, la mécanique. Un troisième thème qui est abordé, c'est celui de l'inoculation. En effet, le problème de la vaccination apparaît au début du XVIIIe siècle lorsque la femme de l'ambassadeur de Grande-Bretagne auprès de la Sublime Porte, ramène en Angleterre la pratique de l'inoculation, la petite vérole contre la variole. Et le père d'Entrecolle écrit au père Duhalde qu'il existe en Chine depuis déjà un siècle une méthode d'inoculation. Je ne parlerai pas des recherches sur l'astrologie, sur la pierre philosophale, sur bien d'autres sujets, mais Aussi, les problèmes techniques sont abordés, notamment, par exemple, on trouve un très long mémoire sur la porcelaine chinoise, et quand on découvrira du kaolin près de Limoges, cela permettra de fabriquer la porcelaine de Limoges.
Je crois que un des grands spécialistes de la littérature comparée, Etiamble, a fait aussi des travaux dans ce sens et a formé des comparatistes. Est-ce qu'Yvon Daniel Etiamble a effectivement participé à cette ouverture sur l'Orient ?
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a été, de ce point de vue-là, un pionnier au XXe siècle pour diffuser les textes, faire connaître de grands textes de la littérature et de la pensée chinoise. Mais il a aussi, justement, travaillé sur les textes des jésuites et présenté un certain nombre de textes et d'études, et notamment un volume sur les jésuites de Chine, hein, dans les années 70, où il est question de la fameuse querelle des rites et des difficultés qu'avaient pu avoir les jésuites avec Rome et avec Pékin pour, disons, se poser la question de leur rapport à la culture et aux traditions chinoises.
On verra qu'effectivement, les jésuites sont là pour être la base de toute cette connaissance, puisque tout à l'heure, vous verrez que Claudel aussi s'était servi dans le repos du septième jour des jésuites.
Alors, on évoquait là les jésuites du XVIIIe siècle. Il y a une génération à la fin du XIXe siècle qui fournit, produit beaucoup de traductions absolument originales, et notamment les traductions des classiques chinois dans les années 1890. Et sont ces textes que lit Claudel quand il arrive en Chine. Et donc, il va en effet, à partir de ces textes, composer notamment un drame qu'il appelle un drame chinois et qui est intitulé « Le repos du septième jour ». Et donc, il est un drame sans pareil dans la littérature, puisque pour la première fois, on pouvait écrire un texte dramatique qui entremêle des références occidentales, chrétiennes évidemment, qui sont celles de Claudel, et des références qui venaient juste de devenir accessibles, en fait, grâce à ces traductions.
Donc ce n'était pas que de l'exotisme à l'occidental ?
Non, je pense que ce n'était pas que de l'exotisme. Ça dépend. Si vous évoquez, par exemple, Connaissance de l'Est, il y a un traitement poétique de l'exotisme particulier chez Claudel. Mais là, l'influence jésuite apparaît moins. Il faudrait aussi ajouter, pour être complet quand même, qu'il n'y a pas que les jésuites. Il y a d'autres ordres
religieux
importants qui sont présents sur place. On dira peut-être un mot tout à l'heure du père Évariste Huc, qui était lazariste, lui. Et puis, il y a les pères des missions étrangères de Paris aussi, qui ont produit beaucoup de traductions qui ont été utiles.
Donc, le père Évariste Huc était en Chine à quelle époque ?
Alors, il fait un voyage de 3 ans en Chine entre 1847 et 1850. À une année près, en Mongolie aussi, au Tibet. Il est le premier Français à visiter Lhasa, une vingtaine d'années après son prédécesseur, le premier occidental à avoir visité Lhasa, qui était britannique, évidemment. Et puis, surtout, il donne un important volume qui est publié en 1850, intitulé « L'Empire chinois », qui va être une source essentielle dans toute la deuxième moitié du XIXe siècle. Et Évariste Huc, au moment où il revient à Paris, devient une sorte de, on dirait aujourd'hui, d'expert sur la Chine. Il est invité par Napoléon III pour conseiller l'empereur. Et son texte donc sera lu par Jules Verne, Charles Baudelaire, Judith Gautier aussi. Et donc, vraiment la diffusion, j'allais dire, la vulgarisation de ce qu'est la Chine au jour le jour qu'avait pu découvrir Huc. Donc il y a une grande diagonale du père Huc avant celle de Ségalène, et c'est important aussi dans la période qui précède Ségalène, justement.
Pierre Brunel, je sais que vous aimez Ségalène et vous aimez peut-être encore plus Claudel, mais présentez-nous un petit peu Ségalène.
Peut-être avant d'en venir là, aimerais-je ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit. Les lettres édifiantes et curieuses ont marqué aussi certains écrivains du XVIIIe siècle, à commencer par l'un des plus célèbres d'entre eux, c'est-à-dire Voltaire. La Chine occupe une place très importante chez Voltaire. Il s'en est servi pour ses propres attaques contre tel ou tel de ses objectifs. Il s'en est inspiré. Le sujet de sa pièce intitulée « L'orphelin de la Chine » lui a été suggéré par un père jésuite. Et il y a donc, avant les auteurs plus récents que nous allons aborder, déjà une masse importante dans la littérature française qui est la conséquence de ces lettres édifiantes et curieuses de Chine par des missionnaires jésuites. Pour ce qui est de Ségalène, ce qui m'a frappé tout à l'heure en écoutant Bertrand Saint-Sernin, c'est l'aspect médical. Ségalène était médecin. On a vu la place de la médecine dans ses écrits et dans ses travaux des missionnaires en Chine. Vous me direz, Ségalène n'est pas venu en tant que médecin en Chine. Oui et non, car à un certain moment de son premier séjour en Chine, il a été appelé à la cour même pour exercer ses talents de médecin. Et la troisième ou la quatrième des missions qu'il a faites en Chine, la toute dernière, était liée à la médecine en relation avec la guerre qui se déroulait à ce moment-là. Donc, il est certain que Ségalène a été intéressé par la Chine et par ce qui concernait la médecine dans les écrits chinois.
Poème intitulé « Pagode », 1896, dans « Connaissance de l'Est » de Paul Claudel. Me voici de nouveau devant la tour. De même que la pagode exprime par son système de cours et d'édifices l'étendue et les dimensions de l'espace, la tour en est la hauteur. Juxtaposée au ciel, elle lui confère une mesure. Les sept étages octogonaux sont une coupe des sept cieux mystiques. L'architecte en a pincé les cornes et relevé les bords avec art. Chaque étage produit au-dessous de lui son ombre. À chaque angle de chaque toit, il a attaché une clochette. Et le globule du battant pend au dehors. Syllabe liée, elle est de chaque ciel la voix imperceptible. Et le son inentendu y est suspendu comme une goutte. Je n'ai pas autre chose à dire de la pagode. Je ne sais comment on la nomme.
Pour ce qui est de Ségalène, puisque nous en venons à lui maintenant, il faut d'abord signaler qu'il est venu en Chine après Claudel. Claudel arrive en Chine en 1895, Ségalène arrive en Chine pour la première fois en 1909, mais il est déjà lecteur de Claudel. On sait qu'au cours de son voyage vers la Chine, il avait Claudel en main, connaissance de l'Est. Il était réticent en ce qui concerne le repos du septième jour. Et on comprend pourquoi, parce que le repos du septième jour se termine tout de même par une sorte de christianisation de la Chine. L'empereur, qui est le premier empereur, Huangdi, descend dans le monde des morts et il en revient pratiquement la croix en main, ce qui était d'une audace folle. Et Ségalène ne pouvait pas aller jusque-là. Il y a dans les échanges de correspondance que nous connaissons, assez rares mais intéressants entre Claudel et Ségalène, des réserves exprimées par Ségalène lui-même directement à Claudel sur l'entreprise trop religieuse à son gré qui a été la sienne. La rencontre entre les deux hommes s'est produite donc en 1909. 1909, c'est l'année où s'achèvent les séjours de Claudel en Chine. Son dernier poste est Tianjin. Et Ségalène, qui est arrivé peu de temps avant, le rencontre à deux reprises à Tianjin même. Une première relation que Ségalène a évoquée avec une petite distance tout de même, mais qui n'a pas été du tout négative. Ils sont restés en contact distant par la suite, en raison même du cours de leur existence. Et Claudel s'est interrogé sur la mort si énigmatique de Ségalène. On trouve dans le journal de Claudel une mention de cette mort de Ségalène, trouvée mort au pied d'un arbre dans la forêt de Huelguat, près de Brest, dans des circonstances mystérieuses. Il y a même de la main de Claudel une correction sur son journal. J'ai eu la chance, quand je préparais mes propres travaux, de consulter le journal inédit, et j'ai pu voir trace de cette correction. Claudel a corrigé en allant dans le sens d'un suicide de Ségalène, ce qui reste pour l'instant non prouvé. Ça reste une énigme.
Yvan Daniel, Ségalène, quand il parlait de l'exode, Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quelle démarcation voulait-il trouver par rapport à tout cet exotisme impérial ou exotisme nostalgique? Enfin, ce mot nouveau.
En fait, il essayait de se distinguer d'une tradition littéraire française qui était celle de l'exotisme essentiellement lié aussi à l'expérience coloniale française et dans sa chronologie aussi, dans son élargissement géographique, avec de grands personnages, y compris des académiciens comme Pierre Loti, hein, qui était le héros de l'exotisme français dans la dernière décennie du 19e siècle. Il est élu à l'Académie le plus jeune académicien d'histoire à 41 ans. Hein. Et c'est une personnalité dont les œuvres exotiques, justement, Le mariage de Loti et différents autres textes, pour ce qui concerne la Chine, Les derniers jours de Pékin, qui raconte l'expédition de 1900-1901. Et donc, Pierre Loti est devenu, pour Victor Ségalen, une sorte de contre-modèle d'exotisme typique qui, selon lui, correspond à un ensemble de clichés dont il donne un résumé, hein, le cocotier ou d'autres figures de ce genre-là. Donc, l'exote doit se distinguer de cette espèce de touriste colonial dont Pierre Loti est le modèle pour Ségalen. Et il doit, lui, apprendre à vraiment entrer en contact avec ce que Victor Ségalen appelle, avec une majuscule, hein, le divers, hein, l'expression de la diversité au contact de l'autre et de l'ailleurs.
Qui permet de se recentrer.
Qui permet, dans le cas de Ségalen, hein, parce que, qui permet en effet de revenir à soi-même. Donc ce n'est qu'un détour dans le cas de Ségalen. Donc l'exote est aussi un peu égotiste.
Pierre Brunel, sur l'exotisme.
Oui, alors à propos de l'exotisme, je voudrais dire deux choses qui sont très différentes. La première, personnelle, c'est que j'ai découvert l'importance du sens nouveau que Ségalen donnait au mot « exotisme » et donc à cet exote en lisant les travaux d'un de nos collègues comparatistes qui a fait une très belle carrière depuis, Jean-Marc Mourat. Et puis, puisqu'il va être question de lui tout à l'heure et qu'on ne peut pas s'en passer, François Cheng, dans le livre qu'il a consacré à Ségalen, « L'un vers l'autre, en voyage avec Victor Ségalen », qui est en fait la réunion de trois grandes communications qu'il avait faites au cours de sa carrière, revient sur ce terme. Et c'est amusant quand on connaît la personnalité discrète de François Cheng. Il lance un jeu de mots, exote, ex, trait d'union, hôte. Et je trouve ce jeu de mots juste et éclairant, ex, hôte, parce qu'il s'agit de ne plus en rester au stade du réel, du visible, de l'apparent, de ce que décrivent les écrivains qui sont seulement des écrivains de l'exotisme, mais il s'agit de pénétrer à l'intérieur, d'entrer dans l'imaginaire et d'entrer même dans le spirituel.
Quelles sont les grandes œuvres inspirées par Ségalen, inspirées par la Chine, Yvan Daniel? On avait parlé de Stèle et on lira quelques œuvres. Quelles sont les autres?
Alors, il y a plusieurs recueils inspirés des arts chinois. Donc, vous venez de citer les Stèles. Il y a aussi peinture, inspirée évidemment de la tradition picturale chinoise. Et puis, il y a des romans aussi. Un diptyque important sur Pékin, hein, qui est composé de deux romans très différents, mais qui convergent en fait, c'est René Lès et Le Fils du Ciel. On a d'un côté donc l'expérience racontée du point de vue de l'empereur et de ses chroniqueurs dans Le Fils du Ciel, expérience qui correspond donc aux dernières années, à la fin de l'Empire à laquelle assiste Victor Ségalen, et René Lès, qui est le point de vue quasiment vulgaire, hein, le point de vue de la rue, de la rue chinoise que parcourt Ségalen, hein, sur la même situation. Donc là, du point de vue romanesque, il y a aussi des expériences très originales et vraiment fondées sur l'expérience de Pékin qu'avait pu avoir Ségalen.
Dans le premier recueil de Victor Ségalen, Stèle, publié en 1912 dans sa première version, cité violette interdite, voici la première partie du texte. Elle est bâtie à l'image de Pékin, capitale du Nord, sous son climat chaud à l'extrême ou plus froid que l'extrême froid. Alentour, les maisons des marchands, l'hôtellerie ouverte à tout le monde avec ses lits de passage, ses mangeoires et ses fumiers. En retrait, l'enceinte hautaine, la conquérante aux âpres remparts, aux redans, au château d'angle pour mes bons défenseurs. Au milieu, cette muraille rouge, réservant au petit nombre son carré d'amitié parfaite. Mais centrale, souterraine et supérieure, pleine de palais, de lotus, d'eau morte, d'eunuques et de porcelaine, et ma cité violette interdite.
Tout à l'heure, j'ai parlé de Pearl Buck, la condition féminine, parce qu'on pense à la condition féminine chinoise quand on pense à Pearl Buck. Est-ce que Ségalène s'était rendu compte à quel point la situation des femmes chinoises était extrêmement défavorable ?
Alors, si je peux dire un petit mot sur Pearl Buck, mais elle vient évidemment après...
Oui, chronologiquement.
Après Ségalène, mais elle passe toute son enfance en Chine et elle parle très bien chinois. Hein. C'est la fille d'un pasteur qui vit en Chine et épouse aussi d'un ingénieur qui réside en Chine.
Voilà. Moi, je me souviens de Pivoine, Vent d'Est, Vent d'Ouest, Un cœur fier.
Exactement, exactement. Et l'un des textes les plus importants, qui a été important aussi pour l'attribution de son Nobel, aujourd'hui, on connaît la traduction française intitulée Vent d'Est, Vent d'Ouest. En fait, le titre original, c'est A Chinese Woman Speaks. Donc, une femme chinoise parle. Et Pearl Buck prétend donc pour la première fois, en tout cas, en anglais, en américain, peut-être même du point de vue chinois, prétend donner la parole à la femme chinoise qui jamais ne s'exprime et qu'elle dit avoir rencontré dans les cuisines, en allant faire les courses, en allant, etc. Et elle a là un point de vue tout à fait original à l'époque. Ségalène, évidemment, n'a pas cette perspective ni cette sensibilité. On a noté d'ailleurs que les personnages chinois chez Ségalène sont généralement des personnages mythiques ou politiques ou impériaux, où il y a peu de Chinois de la rue ou de Chinois de la vie quotidienne qui sont mis en scène dans ces textes. Hein. La Chine de Ségalène est hiératique, hein, alors que celle de Pearl Buck...
Mais moi, je voudrais dire un mot de René Less, parce que je viens de relire très très attentivement ce roman. J'y ai été conduit par l'émission d'aujourd'hui, mais aussi par un écrivain récemment disparu, membre de l'Académie française, Pierre-Jean Rémy, qui a été lui-même diplomate en Chine et dont plusieurs livres sont inspirés par la Chine, l'un qui s'intitule d'ailleurs tout simplement « Chine ». Et « Le sac du palais d'été » est tout plein de Ségalène. Hein. Il y a quelques rares allusions à Claudel, mais c'est Ségalène surtout qui est présent. Il y a des pages entières de Ségalène qui sont citées, et en particulier des pages de René Less. Et j'ai donc relu ce livre qui est très curieux. Ce n'est pas le seul roman de Ségalène. Pierre-Jean Rémy le dit, mais ce n'est pas exact. Il y a également « Le Fils du ciel ». Et dans son extrême jeunesse, Ségalène avait écrit un roman sous pseudonyme intitulé « Les immémoriaux ». C'était avant d'être allé en Chine, ça lui était inspiré par son voyage en Polynésie, sa découverte de Gauguin. Alors René Less, c'est une chose très 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 curieuse, hein. C'est le récit que fait un narrateur qui se désigne seulement par X, mais dans le cours du texte, il finit par se confondre avec Ségalène lui-même, qui a deux professeurs au moins de chinois. Hein. L'un qui est un Chinois d'un certain âge et l'autre qui est un jeune Belge de 18 ans, René Less, personnage mystérieux, étrange, qui va, qui vient et dont on découvre qu'il a mieux que ses entrées à la cour, hein, qu'il est un familier de ce qui reste de la famille royale après la disparition de l'empereur en 1908 et de la terrible impératrice Tsui. Et il a une liaison avec une personne de la famille royale et il finit par mourir empoisonné. Ce René Less, personnage très très mystérieux, et je voudrais le dire aussi, parce que nous devons aller aussi loin que possible dans notre manière chronologique d'envisager le sujet, le pseudonyme de Less a été pris par un écrivain d'aujourd'hui, hein, Simon Less, d'origine belge, comme le René Lès de Ségalène. Il s'appelle Pierre Ricmans, auteur de nombreux ouvrages sur la Chine. Et je voyais tout à l'heure en librairie que son dernier livre, dont j'ai déjà oublié le nom, a pour point de départ son premier séjour à Hong Kong avec des camarades dans une sorte de hutte. Hein, et ça a été leur première découverte de la Chine, leur première conversation sur la Chine et leur premier émerveillement, malgré ses conditions matérielles médiocres, de ce pays auquel il a été par la suite tellement attaché.
Il s'agit d'un quatrain du poète chinois Su Tongpo, de la dynastie des Song, que Judith Gauthier traduit vraisemblablement en collaboration avec Ting Tongling, celui qu'on appelait le chinois de Théophile Gauthier, ce lettré chinois que Théophile Gauthier avait accueilli à Neuilly et qui avait donné ses premiers cours de chinois à Judith. Ce quatrain apparaît donc dans le livre de Jade en 1867 et il est repris en 1937 par Paul Claudel dans ses petits poèmes d'après le chinois. En fait, on le sait maintenant, petit poème d'après Judith Gauthier pour celui-là. Hors de la forêt verte des bambous, deux ou trois branches de pêchers en fleurs. C'est le printemps, les rivières tiédissent. Sans doute, les canards sont les premiers à savoir cela. Déjà, les plants de céleri et les pousses de jonc commencent à s'élever de terre. C'est le moment d'aller à la pêche du tétradon, excellent en cette saison. Parmi les bambous qui bougent, une branche de pêcher rouge. S'il faut en croire les canards, l'été n'est pas venu trop tard. Dans mon jardin, on réussit la salade et le céleri, la salade et les radis. Rien de meilleur que le poisson pêché dans la neige qui fond.
Yvan Daniel, dans votre livre, vous avez évoqué François Chen, bien sûr, et vous l'aviez appelé sinologue. Il est chinois, mais il est quand même sinologue, parce qu'il est biculturel.
C'est une grande figure de passeur, hein, et d'abord, en effet, du point de vue de la sinologie, il a produit des travaux aujourd'hui qui sont des références incontournables sur la poésie chinoise, mais aussi sur la peinture chinoise.
La calligraphie.
Sur la calligraphie. Aussi des albums magnifiques, hein, pour faire connaître donc non seulement les œuvres elles-mêmes, mais aussi les théories, puisqu'il a traduit un certain nombre de textes de théories picturales chinoises, aussi bien que de calligraphie et de poésie. Évidemment, dans la représentation et dans la pratique chinoise, peinture et poésie et calligraphie sont extrêmement
proches. Ce sont les mêmes maîtres.
Voilà, ce sont les mêmes maîtres. Et donc, après d'autres, François Cheng compare la peinture, une poésie, et réciproquement. Donc, ça, c'est une démarche importante. Et donc oui, il y a des sources nouvelles importantes, des explications, des éclaircissements importants, car François Cheng n'est pas seulement sinologue, c'est aussi un grand professeur, et dans la façon qu'il a de présenter ses textes et ses explications, il est particulièrement clair. Je crois qu'on peut citer Han Cheng, qui enseigne aujourd'hui la pensée chinoise au Collège de France, hein, qui elle aussi a publié des textes très importants, notamment son Histoire de la pensée chinoise, qui aujourd'hui nous éclaire beaucoup. Et en ce sens, on peut faire un petit rappel à Etiamble, puisque quand Etiamble publie en 1956 son volume intitulé Confucius, il veut justement, on dirait, dépoussiérer, il dit démystifier le personnage de Confucius, lui retirer soit les oripeaux plus ou moins chrétiens dont l'avaient affublé les jésuites et d'autres, soit une représentation parfois excessivement polémique qu'avaient pu en donner les textes de Voltaire, par exemple, pour en faire vraiment ce personnage de l'équilibre et du juste milieu qu'il est dans la tradition lettrée chinoise. Et de ce point de vue-là, donc, il y a une sorte de révélation et de découverte de plus en plus approfondie et de plus en plus exacte de ce qu'est la pensée chinoise, de ce qu'a été la pensée aussi classique chinoise. Et donc il y a tout un continuum et un éclaircissement qui a trouvé quand même un point d'aboutissement et d'érudition avec François Cheng et avec sa fille. Ce sont des ressources essentielles.
Donc, oui, François Cheng a été professeur à l'École nationale des langues orientales. Ma première rencontre avec lui s'est faite dans un jury de thèse, donc entre professeurs. Et ce qui est remarquable, c'est que son parcours est très présent dans ce livre qui s'intitule « L'un vers l'autre, en voyage avec Victor Segalen ». Car ce qu'il a voulu montrer, c'est que leurs deux voyages étaient en sens inverse. Hein. Lui venu de Chine en France, Segalen allant de France en Chine, avec des émerveillements dans un cas comme dans l'autre, mais à une distance extraordinaire. La page qui m'a énormément frappé dans ce livre de François Cheng, c'est une page où il part de textes de Victor Segalen sur les montagnes chinoises. Hein. Segalen avait fait en particulier, à la fin de son premier grand séjour, un immense voyage à l'intérieur, en s'arrêtant aux frontières du Tibet, où, contrairement au père Huck, il n'a pu pénétrer.
Et quand il redescend en barque et, sur le fleuve bleu, c'est incroyable.
Aussi, les descentes en barque. Hein. Et alors, il y a des descriptions de montagnes dans l'œuvre de Segalen qui sont magnifiques. Et ça donne envie à François Cheng de partir en voyage avec son épouse, non pas en Chine, mais en Auvergne, mais dans les montagnes françaises. Hein. Et leurs expériences sont parallèles, mais avec une sorte d'échange. Hein. Émerveillement de Segalen dans le pays d'où vient Cheng et émerveillement de Cheng dans le pays d'où vient Segalen, mais en profitant de la connaissance que Segalen a eue de la Chine et en s'émerveillant justement de ce que Cheng lui a révélé de son propre pays d'origine.
Oui, et pour continuer le passage que vous évoquez, je crois aussi que François Cheng dit que c'était une époque, ce voyage, où il ne pouvait plus aller en Chine parce que les événements politiques de là-bas l'en empêchaient, et qu'il en était très nostalgique, et que finalement, avec ce voyage, il avait reçu un plaisir qu'il avait pu à peu près rendre chinois. Et c'était un beau passage, ça.
Tout à fait, tout à fait. Une sorte de redécouverte, grâce à Segalen, de son propre pays d'origine, malgré ce qui a pu l'obliger à prendre ses distances.
François Cheng, c'est un personnage qui, bien sûr, est important pour la littérature comparée, puisque un numéro spécial de la Revue de littérature comparée, issu d'un colloque organisé en Sorbonne par vous, Pierre Brunel, lui avait été entièrement consacré.
Oui, il avait été présent, il avait lu admirablement ses textes, car nul ne lit ses poèmes aussi bien que lui, en particulier ceux qui ont été réunis dans ce volume qui est une anthologie, en réalité, à l'orient de tout. C'était quelque chose d'extrêmement émouvant que ce colloque. Et nous sommes fiers de lui avoir consacré un numéro de la Revue de littérature comparée. Nous sommes fiers de l'avoir dans le comité d'honneur de cette même revue. Et je voudrais dire aussi, puisqu'il a été question de lui dès le début de cette émission, qu'il avait le plus grand respect pour Étiamble et que dans nos conversations, le nom d'Étiamble revient toujours.
Oui, dans toutes les conversations de comparatistes, le nom d'Étiamble revient toujours. Merci, messieurs. Et la prochaine fois, nous parlerons, Pierre Brunel, de littérature comparée et art. Et en fait, je pensais à ça aussi avec la calligraphie. Donc rendez-vous dans quelques temps. Au revoir, messieurs, et merci.
Merci beaucoup. À vous.